Donc, alors c'était vu. Alors j'avais parlé à l'époque avec ton l'autre membre du duo en 2016 pour Better Way. finalement, si tu, est-ce qu'il y a pour toi, si on prend ces deux dernières années entre Better Way et alors je sais pas si vous l'appelez 17 ou 17.
Comme tu veux.
On va dire les 17, pour rester dans la thématique américaine. Est-ce que pour toi, il y a un événement ou il y a un souvenir particulier qui, de ton point de vue, synthétiserait toute cette période-là des deux ans entre Better Way et 17?
Bah déjà, le fait de mieux se connaître, d'avoir plus d'alchimie avec mon binôme El Bucho.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est vachement compté, parce que c'est vrai que Better Way, on l'a fait, on ne se connaissait pas beaucoup. On a appris à se connaître en commençant à faire des concerts ensemble. Après, la sortie. Donc il y a eu plus d'alchimie, plus de camaraderie, plus d'affinité, et c'est le temps qui a fait son affaire en fait, et on s'est rendu compte que voilà, ça matchait vraiment bien, et donc d'où l'idée de faire un deuxième album ensemble.
D'accord.
Et c'est vraiment ça, c'est le moment entre la sortie de Better Way et aujourd'hui, bah c'est apprendre à connaître quelqu'un en fait, à travailler avec lui, donc il y a une confiance qui s'installe, hein. Et puis une vraie amitié, quoi. Et puis l'amitié, ça s'acquiert avec le temps. Hein. Y a pas de... Même si au départ, musicalement, on s'entendait très bien, ben, on n'avait pas fait de concert et tout, donc on a fait un peu les choses dans le désordre, quelque part. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que tu vas commencer à tourner, rencontrer des gens, et là, tu fais un album. Nous, on a d'abord fait un album, et puis après, on a appris à se connaître. Donc, c'est assez rigolo, quoi.
Ouais. Et finalement, avec. Toi qui forcément vois les coulisses et vois comment ça se passe, sur 17, il y a des éléments clairs ou qui sont entre guillemets la marque de l'approfondissement de cette relation artistique, ou t'as modifié ta façon, je sais pas, d'approche dans ta composition de musique pour t'adapter à la voix, ce que tu pouvais peut-être moins faire ou que t'avais pas fait de la même façon sur Better Way.
Bah oui, parce qu'il y a eu beaucoup plus d'échanges en fait, on s'est vu beaucoup plus souvent pour composer ensemble. Donc je pense qu'à l'arrivée, ça oui, je pense que, enfin j'espère que ça doit se ressentir un peu dans le nouvel album, parce que c'est vrai qu'au départ, moi, Better Way, je lui envoyais des titres quasiment finis. Après, il posait sa voix, là on s'est vu plusieurs fois, on a composé des choses ensemble, on a ne serait-ce que des refrains, des couplets. Et moi, je me débrouillais après avec ça pour finir les chansons, mais qui étaient déjà bien abouties. Parce que quand t'as un couplet, un refrain, ben, t'as quasiment ce qu'il faut. Donc ça a vraiment été... Ça, c'est la grosse... Le gros changement, en fait, entre le premier et le deuxième.
Quoi. D'accord.
Plus de communication, plus de partage. Et je trouve que c'est vrai que ça bah, vu que ça matche bien entre nous, bah, ça va assez vite. Il y a du répondant et musicalement... de ma part, et au niveau du chant, pour peu de choses, qui a cette faculté de trouver vite des idées de mélodie sur des riffs de guitare. Donc c'est plutôt, c'est plutôt agréable. Il peut trouver 3, 4, voire plus de mélodies sur juste un seul riff. Quoi.
D'accord, donc sur certains titres, entre guillemets, vous avez travaillé des lignes mélodiques vocales alternatives.
Ah oui, sur pas mal de titres. Quand on savait qu'on avait la bonne, bah on s'arrêtait.
D'accord. Et la bonne s'impose d'elle-même?
Ah oui. Oh oui, vraiment, là, on est... Bon, ça, non, on est toujours d'accord. Hein, quand on s'arrête sur une idée, on se dit, ouais, là, on l'a. Donc c'est rigolo, mais je pense que j'imagine que c'est une façon assez traditionnelle, finalement, de composer. Hein. À deux, en tout cas.
Oui, bien sûr. Et comme tu le disais, ça valide ou pas l'entente et la magie artistique qu'il peut avoir entre les deux artistes.
Oui. Ah oui, complètement.
Est-ce que par
des titres qui sont passés à la trappe. Quand il y a des titres comme ça qui restent pendant quelques mois dans un tiroir et puis on n'arrive pas à les finir, ou quand on les finit, on n'est pas trop satisfait, on sent qu'ils n'ont pas leur place dans ce patchwork qui va devenir l'album, bah on laisse tomber et puis suit nos prochains. Hein.
Et donc, sur 17, quelle part a été composée spécialement pour le disque et quelle part fait partie de ce que tu accumules jour après jour pour X projet, celui-là ou un autre, où tout est vraiment spécifique pour cette association musicale?
quasiment tous les titres ont été composés pour cette association. Vraiment. Il n'y a pas de. Alors, il y a certaines idées que j'avais en tête depuis un petit bout de temps, comme le premier morceau de l'album, Mr. Wish,
ouais.
Niveau instrument. Ça, je l'avais en tête depuis un petit bout de temps. J'avais déjà maquetté il y a quelques années, mais qui a changé quand même hein, par rapport à ce que j'avais fait avant. Mais sinon, dans tout le reste, quasiment, c'est. Non, il y a aussi Drown in My Fears, qui est issu d'une de mes idées que j'appelle mes idées tiroirs, que j'ai des fois, que je ressors de temps en temps. Je dis que c'est peut-être le moment d'essayer d'en faire quelque chose. Mais sinon, dans tout le reste, c'est vraiment c'est vraiment du nouveau matériel.
Et est-ce que ça avait été la même chose pour Better Way, ou là tu t'appuyais plus dans tes archives, tu vois?
Moitié-moitié, en fait.
Moitié-moitié.
Parce que Better Way, en fait, c'est le... Je savais que j'allais faire quelque chose avec Lucho, donc c'est... J'ai composé dans cette optique-là, quoi. Vraiment. C'était des titres... Ou même quand j'étais pas encore sûr de jouer, qu'on fasse quelque chose ensemble, c'était quand même des titres qui étaient amenés à y tenter. Donc, après te dire lesquels et tout, je me souviens plus bien, mais...
Non, j'irai pas jusque là, mais et donc comme tu disais, 11 titres apparaissent sur le disque au final. Sur ces 11 titres, vous en avez bossé à plus ou moins jusqu'à finalisation combien?
Bon, je dirais une quinzaine.
Et donc il y en a 4 ou 5 qui ont pas passé le cut, qui ont pas.
Ah oui. Oui, on a même quelques-uns qu'on avait transmis au réalisateur. On lui a dit non, celui-là t'oublie finalement. Parce que voilà, on ne sentait pas, et puis on sentait qu'ils n'avaient plus leur place dans leur. Et c'est ce que. Alors c'est vrai que. On aurait pu, parce qu'un CD, tu peux mettre jusqu'à 17-18 titres. Hein.
Mmh.
Mais en même temps, j'avais envie d'être. Bon, ouais, qu'il y ait une vraie cohésion, puis d'être satisfaite. J'avais pas envie qu'il y ait un titre un peu. Où on est moins satisfait, quoi. Faire du remplissage pour avoir plus de titres, ni moi ni Butcher, on a plus envie. Donc c'est pareil, c'est une décision qui s'est imposée, mais d'elle-même.
Ok. Une question qui paraît un peu naïve, mais je me suis toujours demandé, comment vous choisissez le tracklist?
Ah, ça c'est un. C'est pas évident parce que. Attends, tu sais ce que je vais faire, parce que j'ai un des albums dans mon sac. Donc je vais le regarder tout de suite.
Parce que pourquoi Mr. Wish tu le mets en premier, et je sais pas moi, Let's Start Again 6ème, et puis Smile Giver 10ème.
Alors pourquoi Mr. Wish en premier? Parce qu'on trouvait que c'était une bonne patate. Ça fait une bonne ouverture. Et c'est un des titres des fois qu'on commence les concerts souvent avec lui.
D'accord.
Donc c'est un titre qui fonctionne bien. Et Love and Easy to Tame, alors pourquoi? Bah parce que c'est un... Alors là, je trouvais qu'il y avait une vraie cohérence dans la tonalité. On passe d'un titre en sol à un autre titre en sol, mais sur un rythme complètement différent.
Mmh.
Et puis après, c'est plus une question de ce qui va ambiancer nos choix, en fait, c'est le tempo et la tonalité. Éviter de, par exemple, si t'as 4 titres en mi, tu vas pas les enchaîner. Parce que.
Ouais, faut une variété, faut assurer une variété, ouais.
Voilà.
Ok.
Voilà, faut, donc, tu essayes de diversifier au maximum les tonalités, les tempos, les ambiances. C'est pour ça que tu vois, par exemple, en 5ème, la balade, la Separate Ways, bah, ça fait une respiration à l'album, après on part sur un truc un peu plus catchy. Et après, tous les outils qui s'enchaînent ont des tonalités différentes, donc même s'il y a des changements d'ambiance ou des... tu vois, entre Under My Skin et Don't You Worry About A Thing, on n'est pas très loin au niveau du tempo, mais c'est tellement différent dans les ambiances que ça passe bien, quoi. Mais c'est pas évident, hein, c'est toujours un peu le... C'est toujours un peu compliqué de faire un
tracklist qui se tient. Ouais, c'est pas évident. Et puis inconsciemment, on a l'impression que même, enfin, c'est un peu idiot, mais même un album excellent, on peut un peu le pourrir par un tracklist qui est pas.
Ah oui, complètement.
Tu vois, si.
Complètement, c'est aussi pour ça qu'il faut pas cramer toutes les bonnes cartouches en début d'album. Je trouve que il faut mettre des titres qui nous semblent comme ça forts, mais il faut en garder aussi sur la fin. Faut pas mettre. Il y a des fois des albums comme ça où t'as 5 titres qui sont personnellement super bons, et puis après, t'as une baisse quand même de régime, quoi.
Ouais, puis ça fait un peu filler derrière, ouais.
Oui.
Ouais, c'est le risque, d'accord.
Non, faut toujours s'arracher les cheveux, hein, pour trouver le bon tracklist.
D'accord. Justement, enfin, vous avez cet album, il y a eu aussi un changement par rapport à Better Ways, c'est que bah, vous êtes plus édité sur le même label.
Oui.
Sans rentrer dans les détails qui nous concernent pas, il y a une raison particulière pour que l'aventure Note Bene soit terminée et vous passiez sur Explore.
Alors, en fait, la raison est assez simple. Enfin, il y a deux raisons. Ce que me proposait Note Bene pour faire ce nouvel album ne me contenait pas.
D'accord.
Au niveau du contrat.
Mmh.
Et il se trouve que j'avais dans l'idée de toute façon de travailler avec le label Float Music depuis un certain temps. C'est un label qui a été créé il y a 3-4 ans maintenant par Jean-Marc Roser, qui est un ingénieur du son à la base que je connais depuis des années.
Mmh.
Je suivais comme ça l'évolution de son label, qui est un label un peu particulier. Je trouve que c'est une vraie alternative par rapport à tous les autres labels qu'il y a actuellement sur le marché. C'est-à-dire que c'est un label qui a sa propre plateforme de streaming. Il vend des albums en numérique comme peut le faire iTunes, et en plus ils vendent des albums physiques comme peut le faire Amazon, par exemple.
C'est le meilleur des deux mondes, quoi.
Il réunit les trois en un. En même temps, il y a l'intermédiaire entre l'artiste et le consommateur, si ce n'est ce label, mais ce label qui est là vraiment pour te soutenir. Donc, à l'arrivée, tu as un meilleur. Tu récupères plus vite ta mise, mieux rémunéré. C'est plus équitable. C'est un petit peu comme les gens qui vont acheter leurs fruits et légumes directement chez le producteur sans passer par une distribution, qu'elle soit grosse ou petite. Voilà, c'est un peu je pense que c'est un peu l'avenir des indépendants qui se trouvent dans ce nouveau type de distribution. Et j'espère qu'on ne sera pas les seuls à suivre et à aller sur ce label.
D'accord.
Parce que il y a vraiment de la place pour d'autres mondes, pour d'autres gens. Et le fait de sortir notre album sur Explose va permettre à Explose d'être en lumière, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir ce label avec cette sortie. Et ça va donner envie et l'idée à d'autres artistes de suivre ça et puis de faire confiance à ce label. Parce que c'est vrai qu'on est dans une profession qui commence à mourir un petit peu. Ça va pas en s'arrangeant et tout le monde se plaint que les disques se vendent plus et que c'est dur et que c'est. Mais voilà, Explose Music peut faire partie des solutions.
D'accord, je comprends, ouais. Et toujours dans le domaine, entre guillemets, évolution du business de la musique et peut-être à venir, vous avez fait appel donc à un crowdfunding pour cet album. Est-ce que ça devient, là aussi, vu de l'intérieur, toi qui as vu l'évolution quand même sur de nombreuses dernières années, est-ce que ça fait partie maintenant d'un quasi une nécessité?
Alors, une nécessité, non, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent à faire ça. Moi, au départ, j'étais pas pour du tout, parce que je trouvais que j'étais pas à l'aise avec l'idée de demander de l'argent pour nous aider à financer un nouvel album. Je trouve qu'il y a des causes quand même beaucoup plus nobles et beaucoup plus urgentes où les gens devraient mettre de l'argent. Maintenant, c'est vrai que Sylvie Goldland, qui a eu cette idée, m'a montré les choses différemment, sous un autre angle, et je pense que c'est l'angle qui est le plus juste. C'est qu'on ne demandait pas de l'argent. On proposait aux personnes c'est participatif, donc tu précommandes l'album, t'as une contrepartie.
Ouais, c'est une.
En fait, c'est quelque chose.
Oui, c'est pas un don, hein, c'est une avance sur frais, ou je sais pas comment on appelle ça, mais.
Voilà, tout à fait. Donc, vu les choses comme ça, effectivement, ça nous a aidé à financer une partie de la production de l'album. Et ça nous a permis à l'arrivée d'avoir ce beau digipack entre les mains, et c'est vrai que c'est plutôt. Donc, à l'arrivée, je regrette pas du tout. Et puis, ça nous a permis aussi de continuer à être. Je suis désolé, je perds un peu mes mots, mais la journée a été longue.
Non, non, bien sûr, pas de soucis, je devine.
Ça nous a permis de garder un pied sur les réseaux sociaux, de continuer à faire de la promo en disant voilà, il y a un nouvel album. Donc, finalement, ça a été plutôt une bonne expérience.
Mais quand on se lance là-dedans, est-ce que inconsciemment, il n'y a pas aussi la peur de faire un énorme vide? Enfin, la peur, c'est pas forcément de la peur, mais se dire, en fait, on va se planter, quoi.
Ah ben oui, il y a toujours ça. Oui. Et on se dit toujours, rien n'est acquis. Hein, donc, maintenant, si on n'atteint pas la somme prévue, la campagne de crowdfunding est partie, la campagne participative est annulée, et puis voilà, chacun récupère son don.
Et tu penses que vous seriez allé au bout du, imaginons un échec, vous seriez allé au bout du projet ou pas?
Oui. Ah oui, moi j'aurais fait, oui, j'aurais financé. Je l'aurais fait.
D'accord. Donc pour toi c'est une aide, c'est une aide, mais c'est pas la condition pour.
Non.
D'accord.
Non, mais c'est quand même une aide qui a une certaine importance.
Non, bien sûr.
C'est vrai que voilà, on sait jamais. Hein, il se trouve que là ça a fonctionné heureusement.
C'est aussi. Ça doit faire plaisir et ça doit un peu. Après, bon, t'as fait assez longtemps que t'es dans le business pour savoir ce que t'as un public et que ta musique plaît. Mais c'est toujours ça donne un petit coup au moral. Ça donne un petit coup positif au moral.
Oui, tout à fait. Le fait de dire voilà, on a réussi et on passe à autre chose. Non, c'est vrai que c'était plutôt une belle surprise. Hein, ouais. Sachant que tout s'est accéléré quelques jours avant la fin. Enfin, c'est un peu. On s'est fait un peu des cheveux blancs sur l'histoire, mais bon.
D'accord.
En même temps, je me disais, voilà, il faut prendre ça comme un jeu, quoi.
Mmh.
C'est un peu comme les enchères. Et puis, à force de communiquer, c'est un peu comme. Il y a des gens qui ont donné tardivement, et tout ça a déjà permis de clôturer le truc dans de bonnes conditions, mais c'est vrai que. Franchement, je pense que je le referai pas.
Que tu le referais pas?
Ah non.
Ah bon? C'est pas devenu la règle, t'as fait un one shot, ça suffit?
Oui.
D'accord. Non.
Ah oui, je referais pas ça. Non.
Ok.
Non, parce que voilà, j'ai fait une fois, ça a fonctionné, mais. Je préfère faire différemment.
Non, moi je comprends. Là aussi, question qui peut paraître idiote, avec votre expérience combinée à tous les deux. Vous avez encore bossé avec Eric Benzi pour l'ingénierie de l'album. On a toujours l'impression qu'en gagnant en expérience, finalement, on a de moins en moins besoin d'extérieur pour mettre en boîte sa musique. Et pourtant, la majorité des musiciens continuent de faire de l'appel à des intervenants extérieurs. Donc là aussi, pour un non-musicien comme moi, quelle est cette valeur ajoutée?
Sur un album comme le nôtre ou comme le précédent, c'est tout. Parce qu'on lui donne. C'est un petit peu comme. Tu donnes. Enfin, c'est lui qui met en forme toutes les pistes. En fait, on a enregistré dans différents studios, un peu dans le sien aussi. Et à l'arrivée, lui, il a toutes les pistes. Il faut qu'il fasse avec tout ça, qu'il équilibre tout, qu'il trouve la place de chaque instrument, de chaque cœur, qu'il édite. Et ça, c'est un métier. Il y a plein de musiciens qui sont et produits et réalisateurs et musiciens. Et je trouve que les meilleurs albums sont ceux qui ont été produits par des tierces personnes. Donc c'était vraiment le métier d'écouter les autres et de se mettre au service de la musique des autres et d'essayer d'en faire ressortir le meilleur. Et ça, c'est vrai, il faut de l'expérience, il faut du savoir écouter.
Et mais pourtant, il agit sur des instructions très précises que vous lui donnez, non?
Non, parce que, enfin, sur le premier un peu, parce qu'il commençait à me connaître, mais sur cet album, il savait très bien quels étaient nos souhaits, qui étaient un peu les siens, parce qu'on a, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les guitares, le classic rock, donc il sait comment traiter ce genre de musique. Il y avait juste le cahier des charges était très, très mince, hein, petit exemple comme ça, Bacho aime pas trop les choses un peu électro, donc il sait que il faut éviter de mettre des choses à consonance un peu électro dans la production, parce que ça, voilà, c'est un autre show, il est un peu hermétique là-dessus.
D'accord.
Sinon, non, dans le reste, vraiment, c'est. Et nous, ça nous permet aussi de redécouvrir quelque part notre musique et notre production, parce qu'on n'assiste pas au mixage.
Bah c'est ça, c'est-à-dire que vous faites confiance à la personne, il a fait preuve de son talent sur le premier album, en plus de son expérience perso, mais je devine que quand vous recevez les premiers fichiers avec le mix, pour vous c'est, enfin ça doit être intense parce que c'est une redécouverte de votre travail. Vous avez joué les notes, il y a eu un chant, mais d'une même base tu peux faire une infinité de résultats.
Ah oui, complètement, vraiment. Après il y a des bons. On lui a fait retoucher deux, trois petites choses, des choses qui n'étaient pas assez fortes et tout, mais c'est vraiment, ça joue sur du détail. Mais Et ça, c'est super agréable en tant que musicien. Et souvent, quand t'es musicien comme ça, tu participes au mix. Ou alors tu y assistes, en tout cas.
Oui, on se dit, t'es dans la même pièce que le mec, et puis tu vois ensuite, quoi.
Voilà, tout à fait. Ah, moi, pas du tout, là. Donc, ça te permet de ne pas te lasser de tes titres, parce qu'au fur et à mesure que tu mixes, tu peux passer 4 jours sur un titre. Sur un son de batterie, sur un son de ton titre, on peut plus, à la fin, tu peux plus l'écouter.
Ouais, ouais.
Et là, là, tu redécouvres, et c'est comme si tu découvrais un nouvel album, en fait. Donc, c'est super agréable.
Et le fait qu'il ait joué dessus, il a fait quelques titres, il a fait quelques parties de batterie.
Il a fait de l'orgue aussi sur Spy Beaver.
Ça aide ou tu penses que ça l'a aidé pour lui ou enfin?
Oui, ça l'a aidé aussi à se mettre dans la musique. Et puis Spy Beaver, c'est lui qui, enfin, il a mis d'emblée de l'orgue dessus et c'était super bien vu. Enfin, donc il ne fait pas que mixer, c'est vraiment il réalise quelque chose. Ce qu'il faisait d'ailleurs sur toutes les autres productions qu'il a fait bien avant nous.
Ok. Et là aussi, alors, donc t'as vous avez quelques guests au niveau guitare et basse.
Oui. Alors des guests, oui et non, parce qu'en fait c'est notre équipe hein, qu'on a en live. Donc c'est des gens qui font partie du groupe, mais qui n'ont pas joué sur tous les titres, effectivement, plus pour des raisons de commodité. Julien qui fait tous les concerts avec nous. A fait deux titres à la basse, Jacques 3 titres à la guitare, et mon frangin qui est batteur aussi dans l'équipe a joué sur 8 titres.
D'accord. Et par exemple, donc toi qui a géré beaucoup de lignes de basse, Julien, quand il joue, ça t'apporte une petite orientation différente ou un petit. Il y a chacun son style, même s'il est parfois très succinct, mais ça apporte une couleur particulière, non?
Ah oui, complètement, oui. Ça apporte son feeling qui lui est propre, donc c'est plutôt sympa.
Et par exemple, tu t'es dit, je vais faire appel à Julien sur deux titres, et tu t'es dit, tiens, ça m'intéresse d'avoir sa couleur ou son orientation sur Mr. Wish ou Separate Ways, ou c'était un hasard sur ces deux titres-là?
Non, c'était pas un hasard, ce sont des titres en fait qu'on a travaillé en répétition et qu'on jouait bien en live. Donc il avait déjà les parties de base bien en main, donc c'est pour ça que je me suis dit, il est évident qu'il va les faire sur l'album. Mais des autres titres qui étaient vraiment plus de la création pour le disque qu'on n'avait pas vraiment joué en live encore, j'avais déjà fait les basses. Et puis les basses, elles sonnaient bien, donc on s'est dit, on les garde comme ça. Enfin,
D'accord. Et autre, est-ce que de jouer avec son frère, donc enfin un membre de sa famille, donc quelqu'un qu'on connaît bien, entre guillemets, intimement,
oui.
Ça change quelque chose dans la dynamique de...
Oh oui, automatiquement, sachant qu'en plus, avec Alban, il y a une histoire musicale qui date pas de Better West, seulement. C'est qu'on a commencé la musique ensemble, il a joué de la batterie 2 ans avant que je me mette à la guitare, et pendant environ une quinzaine d'années, tout ce qu'on faisait, on le faisait à deux. Donc après, il a arrêté de jouer pendant quelques années pour faire autre chose, et après, la musique Better Way, quand on a eu des concerts, il m'a émis le souhait de se remettre à la batterie et qu'on rejoue ensemble. Ce qui n'était pas gagné à la base, parce qu'il avait arrêté la.
Bien sûr, ouais, non, il.
Mais il a vraiment récupéré un bon niveau, et puis voilà, ça a été. Et puis ce qui est drôle, c'est que quand on s'est retrouvé dans le même studio tous les deux, c'est comme si on s'était jamais quitté. On a une espèce d'affinité, de regard, et on se comprend. Enfin, c'est vrai que c'est parce qu'on a commencé, on a débuté ensemble. Il y a des choses, c'est pareil, quand je te disais, heureusement, c'est vraiment le temps qui fait son histoire.
Non,
j'ai joué avec beaucoup d'autres batteurs, avec qui je me suis très bien entendu. Mais j'ai jamais eu l'alchimie que je peux avoir avec mon frangin. Mais je pense que c'est normal.
Et entre guillemets, c'est rassurant. Enfin, je trouve que ça fait plaisir, quoi.
Oui, vraiment.
Autre aspect de la musique. Donc, si on sent un peu de la musique sur les aspects visuels, sur deux aspects, sur le côté pochette. Est-ce que c'était important? Et il y avait aussi, est-ce qu'il y avait entre guillemets une stratégie sur l'idée de vous mettre tous les deux? Sur la pochette et pas avoir une pochette peut-être plus moins personnelle, moins plus, tu vois, plus basique ou standard.
Au départ, on voulait pas du tout se mettre sur l'album. Donc c'est marrant, hein, mais c'est après avoir fait une séance photo avec Matt Nina, qui est un très bon photographe, qui a réalisé des très bons clips. On a vu le résultat, puis Butcho qui a réalisé l'artwork, entier, que ce soit livré et la pochette. A commencé à travailler là-dessus et a choisi cette photo et j'ai trouvé ça vachement sympa. En plus, on se marre, ça change un peu des pochettes où où les gens se prennent un peu au sérieux, posent.
Oui, il y a un côté joie de vivre communicatif, il y a un sourire communicatif.
Voilà, ouais. Donc,
et vous êtes quoi devant ce
Au départ, je ne voulais vraiment pas du tout qu'on soit déçu.
Bah parce qu'on se dit toujours, ouais, les mecs, ils ont des égos pas possibles, donc il faut absolument qu'ils soient dessus.
Oui. Alors que là, bah non, c'était, ça s'est imposé comme ça, mais c'était pas une volonté au départ, justement, on voulait pas être dessus.
D'accord. Vous êtes quoi devant? C'est quoi? C'est une palissade en bois? C'est une maison ou c'est quoi? On dirait que c'est du bois.
Bah c'est... Oui, c'est du bois. C'est une espèce de... c'est le photographe qui a trouvé cet endroit-là, qui était un peu atypique, vers chez lui. Et pareil, hein, sur cette espèce d'amas de bois, là aussi, on a l'impression qu'on a fait les photos un peu au Canada, je trouve.
Ouais, il y a ce côté-là, je suis d'accord.
Ouais, alors que pas du tout, mais je trouvais ça assez sympa, quoi. Ce côté bois un peu organique, justement, pas trop numérique, tout ça, quoi.
Et toujours sur le côté visuel, donc vous avez proposé une vidéo, entre guillemets, lyrics pour Under My Skin. Je pense que là aussi, bon, un clip vidéo, c'est un investissement financier, et on se demande toujours si c'est utile. On a l'impression que c'est forcément utile parce qu'avec YouTube, c'est le royaume de la vidéo, mais en même temps, on est tellement noyé dans la masse qu'on se demande si l'investissement vaut le coup.
Je pense qu'il vaut le coup. D'ailleurs, on va en faire un, je pense, en début d'année, un vrai clip.
D'accord.
Mais je pense que c'est important d'être présent quand même, avec quelque chose qui soit chialé, qui soit bien réalisé, qui soit. Sinon, ça fait partie des choses. Parce que, comme tu dis, avec YouTube, c'est mondial. Donc, tu peux être cliqué à l'autre bout du monde, en Allemagne, en Norvège, et à Strasbourg. Donc, c'est un côté qu'il faut pas négliger, quoi. Et puis, les gens demandent ça. Que ce soit les programmateurs, pour faire des dates, pour faire des... C'est important, ils veulent de l'image.
Et donc ça reste un outil pour vous, pour se faire connaître et de promotion, qui reste un outil clé?
Oui, tout à fait, vraiment. Le tout est d'avoir un clip qui ait de la gueule, qui soit pas fait avec trois bouts de ficelle et...
D'accord.
Trouver le bon angle, le bon axe. Je pense que c'est Matina qui le réalisera, parce qu'il a fait vraiment des belles choses. Maintenant, il faut qu'on trouve vraiment le bon angle. Comment attaquer ça et... sans tomber dans un, enfin, sans faire un, refaire un faux live.
Ouais.
Pour ressembler à 10 000 autres clips qu'on voit, même s'ils sont très bien réalisés, mais ça apporterait pas grand chose.
Tu peux peut-être pas me répondre, je mettrai une petite pièce sur Mr. Wish ou?
Ah, bah, nous on pensait à Love and Easy to Tame.
D'accord.
C'est le deuxième titre de l'album.
Ouais.
Un peu différent, hein, qui a un côté un peu bluesy, Turner.
Mais il a plus de 5 minutes, ça ferait peut-être une version éditée, je sais pas trop, mais...
Oui, c'est vrai, qu'il est un peu long.
Ah, il est très bien, mais il est un peu... Pour un clip, ça fait long, quoi.
Oui, c'est vrai. Donc il faudrait... C'est vrai que c'est pas idiot. Il faudrait peut-être l'éditer pour en faire un clip.
Mais je dis ça, vous savez mieux que moi, hein, mais...
Non, mais c'est vrai que surtout dans une culture dans laquelle on baigne là, qui est la culture du zap, déjà, si tu fais un clip de plus de 30 secondes, c'est trop long, hein.
Bah, déjà que la moitié des gens, ils écoutent les premières 30 secondes, si ça leur plaît, ils avancent à 2 minutes, puis ils avancent à 4, et puis, fin de l'histoire, quoi.
Ouais. Non, c'est vrai.
Pour un peu terminer cette interview, quels sont vos projets, attentes pour 2019? Qu'est-ce qui arrive pour vous?
Des concerts. Essayer de faire vivre au maximum le disque, des concerts. Et puis voilà, donc essayer d'aller à la rencontre maximum de gens et partager, puis aller à la rencontre du public, c'est un peu pour ça qu'on fait ce métier quand même.
Vous avez déjà des dates de programmer ou
on... C'est en cours, non, on n'a rien pour l'instant. Mais c'est en cours, vraiment. Il y a pas mal d'options qui ont été posées. Donc on y travaille.
D'accord. De toute façon, ça reste les réseaux sociaux pour avoir le détail.
Oui, tout à fait. Réseaux sociaux, sites, tous les pigeons voyageurs,
d'accord.
Les modes de communication.
Et juste pour terminer, pour un peu boucler cette boucle en fin d'année, si tu avais un album sorti en 2018 à nous recommander?
Et voilà. Alors là.
Et t'écoutes pas mal des trucs qui passent ou tu restes plutôt sur
Non, j'écoute beaucoup. Beaucoup de nouveautés, mais il n'y en a pas beaucoup
qui accrochent, ouais.
Qui m'accrochent vraiment.
Et donc, t'as pas un coup de cœur là à l'esprit qui arrive maintenant à 20h en Magala Fatigue?
2018
ou récent, quoi. Si c'est 2017, c'est pareil. Qu'est-ce qui tourne en ce moment sur ton, je sais pas si t'as dans ta voiture ou sur ton téléphone ou sur...
Bon, plein de choses, mais j'ai découvert dernièrement une artiste scandinave qui s'appelle Tina Dico, que je trouve super bien, vraiment.
C'est quoi, D-I-K-O ou D-I-C-O ou...
D-I-C-O.
D-I-C-O.
Tina Dico.
D'accord.
Ça, c'est vraiment très très beau, c'est de la pop.
Ouais, ouais, bien sûr.
Ça, c'est un gros coup de cœur. 2017, je crois que c'était l'album de Vintage Trouble qui était vachement bien.
Mmh.
Qui mélange habilement soul et quasiment hard rock. Ça, c'est un bel album aussi, je trouvais.
D'accord. Bah écoute, non, non, mais c'est déjà deux bonnes...
Ah, et puis si, il y a un autre album qui m'a beaucoup plu, de 2018 d'ailleurs, c'est l'album de Carousel Vertigo.
Carousel Vertigo, d'accord.
Ouais, un album d'un groupe français qui est vachement bien.
Eh ben écoute, ça va être des pistes pour aller écouter tout ça.
Ouais.
Un grand merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Et puis tous mes vœux à très court terme et on suivra l'actualité des concerts qui arrivent en 2019.
Yes, avec plaisir.
À bientôt.
Merci à vous. Ciao.
Salut, ciao.